France Info.
Bonjour Jean-Christophe Granger.
Bonjour.
Vous êtes cet auteur qui s'est offert, grâce à ses écrits, d'avoir toute sa vie le vent en pourpre. Et pour cause, la majorité de vos ouvrages sont des best-sellers, avec à chaque fois des lecteurs conquis. Depuis Le vol des cigognes en 94, vous êtes considéré comme l'un des rares auteurs français devenus maître du thriller, adapté au cinéma et traduit dans plus de 30 langues, donc dans le monde entier. Vous rêviez enfant de devenir écrivain et force est de constater qu'aujourd'hui vous jouez dans la cour des grands, armé de votre solide expérience acquise en tant que journaliste, tout d'abord, reporter, aux côtés de Pierre Perrin. C'est d'ailleurs sans doute ce qui vous a permis d'affûter votre plume et votre œil de fin observateur. Depuis vos débuts, beaucoup de lecteurs sont sensibles et parfois interpellés par la précision presque chirurgicale, donc cinématographique, en tout cas étonnante, des scènes de crime et des procédures utilisées par vos différents personnages. Ils se demandent souvent d'où vient cette écriture et cette imagination si glauque et sanglante. Aujourd'hui, vous venez non pas nous présenter un nouveau thriller, quoique vous sortez « Je suis né du diable ». C'est une histoire d'autant plus terrifiante que vous le précisez dans le bandeau apposé sur la couverture, tout y est vrai, et vous avez pris la peine de rajouter « C'est la mienne ». Ce livre est né du besoin finalement de répondre à cette question, mais le mieux du monde, cette fameuse question que tout le monde vous pose, d'où vient cette imagination ?
Absolument. Depuis que j'écris et depuis que j'ai publié mon premier roman, c'est la question qui revient le plus souvent. D'où te vient des idées pareilles ? J'ai été obligé d'y réfléchir et de me creuser un peu le cerveau pour dire oui, quand même, j'ai une imagination très très noire. J'ai eu une enfance heureuse, je suis un petit garçon normal, ado, bon, difficile comme tous les ados, mais il fallait que je cherche quand même. Et j'ai quand même creusé du côté de mes origines parce que c'est quand même là que ça se passe. C'est là où votre personnalité se forge. Et j'ai commencé à poser des questions et j'ai découvert que, en fait, oui, ma naissance et mes premières années abritent un véritable cauchemar. Mais un cauchemar digne de mes livres. Donc tout d'un coup, j'ai compris que ce cauchemar m'avait marqué au niveau inconscient et que c'est lui qui nourrit la machine, qui nourrit mon imaginaire. Et c'est ça que je ne cesse de raconter dans mes thrillers, c'est-à-dire l'histoire d'un père super maléfique, vraiment un super méchant jailli de je sais pas quelle bande dessinée, et qui a donc persécuté ma mère et moi tout bébé. Donc j'ai creusé, j'ai enquêté, ma mère a toujours refusé d'en parler tellement ça avait été difficile, et en rapprochant les fragments, en retrouvant une tante, c'est-à-dire une petite sœur de mon père qui est décédée depuis longtemps aux États-Unis, j'ai réussi à raccrocher tous les morceaux et à reconstituer l'histoire. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais Granger, là, t'as une histoire digne de tes bouquins. Tes lecteurs ne seront pas déçus de cette histoire. Et il y aura un grain particulier, puisque là, pour le coup, tout est vrai.
Vous êtes replongé, effectivement, dans votre enfance, en 1963, alors que vous n'aviez que 2 ans, dans un endroit dans lequel vous avez vécu jusqu'à vos 9 ans, situé boulevard Soult, dans le 12e arrondissement, les immeubles de la régie immobilière de la ville de Paris, des forteresses donc de briques, des murailles rouges, comme vous le dites, sang, qui vous obsèdent depuis votre enfance. Et pour cause, votre mère a été enlevée le 18 juillet 1963 par des cagoulée. Elle a été emmenée dans un cimetière pour y être enterrée vivante. Elle a réussi à s'échapper et à aller retrouver finalement des passants qui l'ont protégée. On a effectivement l'impression que cette histoire n'a pas existé tellement elle est, en tout cas qu'elle est née dans votre imaginaire. Ça fait froid dans le dos. C'est effectivement l'écriture d'une lettre, enfin la lecture d'une lettre envoyée par votre tante qui vous a mis finalement un peu la puce à l'oreille.
En réalité, toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse et puis ensuite, j'ai un peu repousser toute cette histoire parce que j'avais un petit peu peur de la découvrir. Et j'étais grandement aidé par ma mère qui refusait de dire un mot de toute façon. Donc on était dans le silence total, le tabou. Et voilà, sauf que c'est ce que je raconte dans mon livre. Autour de 45 ans, j'ai fait une dépression. Évidemment, ma psychiatre m'a dit « Bon, bah on va vous soigner chimiquement avec des médicaments. On va aussi creuser quand même où est la faille. » Et là, elle m'a exhorté à demander à ma mère de me raconter bien toute cette histoire qui, si vous voulez, c'est une poche noire dans mon enfance. On m'en a jamais parlé, mais vous parlez pas de quelque chose à un enfant, c'est le meilleur moyen pour que son imagination galope. Et encore une fois, ma mère a dit « Désolé, 50 ans après, je peux toujours pas, etc. »
Votre question, c'était « Est-ce que tu peux me raconter pourquoi
voilà,
je n'ai jamais connu
les,
mon père ?»
Les premières années de mes origines, qu'est-ce qui s'est passé avant ma naissance, pendant ma naissance, juste après ma naissance, parce que mes parents ont divorcé après ma naissance et mon père a eu l'interdiction absolue de me voir à ce moment-là. Donc, c'était un secret vraiment bien gardé et tout ce que ma mère m'a dit, c'est « Moi, je peux pas parler, mais je vais te donner le dossier du divorce où il y a plein de témoignages. » Et quand j'ai ouvert ce dossier, donc pendant ma dépression. Le premier document, c'était un article de presse qui racontait cette histoire de cimetière où on avait tenté de l'enterrer vivante. J'étais déjà pas en forme. J'ai dit, bon, je vais fermer le dossier, on lira ça un peu plus tard quand je serai quand même plus d'aplomb. Et donc, une nouvelle fois, j'ai eu un épisode terrifiant de ce moment de ma petite vie, parce que j'avais 2 ans à l'époque, et n'en parlons plus. Et puis, au moment où j'ai décidé quand même de creuser et de reconstruire l'histoire et d'aller voir ma tante, dans l'avion qui m'emmenait à Washington, j'avais emmené ce dossier. Et donc, pendant tout le vol, j'ai lu le dossier. Je peux vous dire, j'étais un passager qui avait une drôle de tête, parce que j'étais abasourdi de ce que je lisais, les témoignages. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, Granger, ton père, c'était pas un mauvais mari ou un compagnon violent, c'était le diable. Et là, c'est un peu schizophrénique, mais en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, j'ai été assez désolé de cette origine. Mais en tant qu'écrivain, raconteur d'histoire, j'ai dit, là j'ai l'histoire.
Et en tant que fils d'eux, est-ce qu'on parle?
Alors en tant que fils d'eux, alors c'est là-dessus que j'ai insisté dans mon livre, parce que c'est le message, c'est ce en quoi je crois le plus, c'est en l'amour. Ça fait un peu ringard, hein, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour de ma grand-mère et de ma mère ont construit vraiment autour de moi une forteresse d'amour. Pas mal. Et qui m'ont protégé complètement de, si vous voulez, cette hantise ou de cette peur, ou même de cette terreur d'être comme lui, par exemple. J'ai grandi protégé, blindé, et il n'y a pas eu de problème. Bon, quand j'ai failli, autour de mes 45 ans, que j'ai été un peu en dépression, là, j'ai été obligé de me replonger dans tout ça. Mais j'étais, malgré mon état un peu précaire, j'étais quand même assez fort. Et je peux dire que j'ai jamais eu ce sentiment que les gens imaginent, c'est-à-dire de me dire, oulala, je suis le fils d'un monstre, c'est horrible. Ma position, c'est qu'on est l'enfant de l'amour. C'est-à-dire, vous êtes l'enfant de ceux qui vous aiment, votre famille, c'est ceux qui vous aiment, qui s'occupent de vous. Mon père, ma famille paternelle, que j'ai jamais connue, c'est rien pour moi, vous voyez. Je le raconte aussi dans mon livre. Un jour, on m'a appelé un dimanche matin, c'était mon frère. Je dis, comment, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était donc le fils de mon père qu'il avait eu avant moi, avec une autre femme. Pareil, il a voulu me rencontrer. Je lui ai dit, c'est pas la peine, on se connaît pas, on n'a rien en commun. On peut parler de l'héritage sanguin, j'allais dire sanglant. On peut parler de l'héritage génétique, mais j'y crois pas vraiment. Je crois au vécu, à l'amour. Et ça, ma famille, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont entouré. Donc, en fait, j'ai abordé cette histoire assez calmement, d'une façon assez paisible, et avec cette bonne distance de l'auteur qui va raconter une bonne histoire.
Ce livre, c'est aussi une belle façon, justement, de rendre hommage à ces deux femmes. Vous les remerciez jusqu'au bout du bout. D'ailleurs, vous terminez ce livre en les remerciant, en leur disant que vous en êtes sortis grâce à elles. Mais surtout, vous recontextualisez aussi la place des femmes à une époque où il n'était pas de bon ton de s'exprimer. C'était important aussi pour vous de repréciser les choses parce que vous avez mis vraiment deux regards. C'est-à-dire, il y a le regard de votre mère et il y a le regard de votre grand-mère sur sa propre fille où elle-même savait que cet homme n'était pas bon pour sa fille. Mais comme elle avait vécu elle-même des choses un peu compliquées, elle pensait que ça allait passer.
J'ai décidé de parler à la première personne au nom de ma mère et de ma grand-mère parce que je voulais vraiment incarner l'histoire. Je voulais qu'on la ressente de l'intérieur de ces deux femmes et qu'on la vive vraiment comme elles l'ont sans doute vécu. Et à l'époque, en effet, et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est une sorte de conte fantastique, un conte qui commence très bien et qui va finir très 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 mal. Ma mère, elle a rencontré une sorte de prince charmant, un prince charmant 60s, sur fond de yéyé, avec, il avait une décapotable, enfin...
Triomphe, c'était riche, il était riche.
Très riche, étudiant en médecine, enfin la totale comme on dirait aujourd'hui. Et puis ça s'est déglingué, il a montré des failles, il a commencé à être méchant, il a révélé qu'il était alcoolique, drogué et surtout sadique, terriblement sadique. Et quand ma mère a commencé à voir ses fêlures et ses failles, il était temps de reculer. Mais en fait, non, il était plus temps parce qu'elle était enceinte. À l'époque, c'était soit le mariage, soit l'aiguille à tricoter chez le concierge. Donc, ma grand-mère, c'est-à-dire sa mère, lui a dit « Oui, marie-toi, ça va s'arranger ». Il y avait un fort espoir à l'époque. Au nom de ce modèle familial que tout le monde voulait incarner, c'est-à-dire la bonne petite famille bourgeoise, ça va s'arranger, on va trouver un équilibre, l'enfant va naître, etc. Et je raconte toute cette scène de mariage où quand même ma mère est en blanc, etc. Mais il y a un voile, il y a une inquiétude, on sait bien qu'il va se passer quelque chose de terrible. Surtout que ma grand-mère a glané quelques renseignements sur mon père, donc sur le jeune marié, et déjà les renseignements étaient terrifiants. Donc j'ai voulu raconter cette histoire, si vous voulez, à la fois d'une emprise, parce que ma mère à ce moment-là a signé avec le diable, elle a été sous emprise un mari terrible qui l'a persécuté d'une manière, à l'époque, on pouvait persécuter sa femme d'une manière quasiment, avec impunité. Ça marchait comme ça à l'époque. Et puis ensuite, un autre profil de femme que j'aime particulièrement, c'est-à-dire des héroïnes qui m'ont protégé, qui se sont battues. Ce qu'il faut dire qu'après, il y a eu le divorce. Donc d'un côté, mon père riche avec les meilleurs avocats de la Terre, enfin les meilleurs des diaboliques, puisque c'était encore des avocats qui étaient d'extrême droite, etc. Et puis ma pauvre mère et ma pauvre grand-mère qui avaient l'aide de ma tante, qui était secrétaire chez un avoué. Donc vraiment, c'était le pot de terre contre le pot de fer. J'ai voulu raconter ce combat parce que c'est une histoire d'héroïsme. Vrai, mais c'est de l'héroïsme.
Votre père a rapidement été violent avec votre mère. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, mais c'est facile de partir, pourquoi elle n'est pas partie? Mais effectivement, vous détricotez toute cette histoire, vous démarrez effectivement par cette rencontre où elle a vraiment le sentiment de rencontrer le prince charmant, et effectivement, tout s'envenime avec cette incapacité de partir. Elle va avoir ce courage-là quand même, votre mère, quoi. C'est extraordinaire.
Oui,
c'est-à-dire qu'à la fois,
elle est
complètement sous l'emprise d'eux, mais en même temps, elle a cette force que très peu ont de se dire, on arrête tout, quoi.
Oui, mais le cauchemar a été long parce que, encore une fois, à l'époque, c'était pas évident de partir, ni même de divorcer. Moi, j'ai toujours été un enfant divorcé. Je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux dans mes classes. Et je le raconte à un moment donné, comme ça, tout ça allait trop loin. Il était terrible. Il l'enfermait plusieurs jours. C'était vraiment Barbe Bleue.
Il l'obligeait à boire. Il l'obligeait à dormir par terre
pendant la grossesse, à dormir par terre, sans matelas, sans aucun confort. Mes grands-parents, donc mon grand-père qui lui-même était un peu zinzin, faut bien le dire, et ma grand-mère ont décidé de faire un déménagement à la Cloche de Bois. Et puis, ils sont allés chercher et ma mère et moi-même, hein, qui a vécu quelques mois, dans l'appartement pendant que le monstre n'était pas là. Et bah, sur le seuil, ma mère a encore dit « Non, bah, finalement, je vais rester, je vais discuter, ça va s'arranger. » Donc, si vous voulez, c'est cette histoire d'emprise qui est terrible. À l'époque, les femmes, elles signaient pour le mariage, mais elles livraient leur âme. Et je trouve que c'est, pour moi, raconteur d'histoire, c'est une très bonne histoire, au sens négatif, parce que, si vous voulez, le mariage, ça peut être le pire cauchemar qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on a signé volontairement pour quelque chose, la porte se referme derrière vous, et vous pouvez plus rien faire. C'est ce qui est arrivé à ma mère, qui avait 22 ans, vous vous rendez compte, je ne sais pas ce que vous faisiez à 22 ans, mais moi, il me serait arrivé des trucs pareils à 22 ans. C'était terrible pour elle. Elle avait aucune expérience de rien, quoi. Et elle s'est retrouvée face, oui, vraiment, on peut dire à Dracula, quoi.
Votre grand-mère, elle appréhendait que l'embryon ne soit contaminé par cette angoisse larvée. Et vous ajoutez, je suis un enfant rétro-éclairé, marqué de l'intérieur. Une sorte de lumière noire m'a imprégné et influencé le moindre fait, la moindre sensation de mon enfance. C'est terrible.
Oui, parce que c'est ce que je raconte pendant le mariage. Ma grand-mère, elle imagine déjà cette grossesse qui va être difficile, avec cette peur au ventre, c'est le cas de le dire, hein, c'est l'expression. Cette peur au ventre et moi à l'intérieur du ventre. Bon, alors c'est moi qui aime bien aussi un petit peu développer, mais on peut s'imaginer que cette peur, elle a circulé dans ce ventre et m'a contaminé. Et plus tard, on doit bien dire que j'ai été un enfant qui avait une relation à la peur très particulière. Bourré de cauchemars, et très vite, j'en parle longuement dans mon livre, il y a eu ce mécanisme de la sublimation où vous transformez un objet de terreur, un objet d'angoisse, en objet positif. C'est-à-dire que j'ai transformé ça grâce à la création artistique. Enfant, j'ai beaucoup dessiné. Je l'ai transformé, grâce au dessin, cette peur qui aurait pu m'écraser, me tétaniser, je l'ai transformé en objet esthétique. C'est-à-dire, je me suis mis à dessiner que des histoires d'horreur, des histoires gothiques, des histoires de vampires. Et à l'encre de Chine, j'ai transformé cette terreur, si vous voulez, en une création artistique. Moi, j'adore Freud. Merci Freud, il en a beaucoup parlé.
Vous citez beaucoup
dans mon cas,
genre.
Il a eu bien raison, parce que toute ma vie, j'ai créé dans ce sens-là. Et on revient à cette question donc du début. Mais d'où te viennent des idées pareilles? Elles viennent du fait que je n'ai de cesse de transformer la terreur en quelque chose d'autre, en objet d'art, disons, et qui va devenir un objet de plaisir pour les lecteurs, pour les spectateurs.
Vous êtes toujours positif, mais il y a quand même beaucoup de tristesse hein, dans certains mots. Ça heurte. Hein. Alors, par exemple, vous dites que tous les gamins autour de vous craignaient le noir, alors que pour vous, le noir vous habitait en permanence, avec des cauchemars permanents, vous l'avez raconté, en guise de rêve. Vous n'avez, à ce jour d'ailleurs, aucun souvenir de rêve serein durant votre enfance. C'est terrible.
Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je crois que cette nuit, je m'en suis farci encore. Hein. Alors moi, je suis monsieur cauchemar. Vraiment, c'est pour ça que les gens sont étonnés. Je me lève à 3h du matin en pleine forme. C'est un soulagement de me réveiller à chaque fois, parce que j'ai fait des tels cauchemars que le sommeil, pour moi, c'est pas du tout synonyme de quelque chose d'apaisant, pas du tout. Mais si on parle de tristesse, faut surtout parler de ma mère, parce que moi, encore une fois, j'ai été protégé, j'ai été entouré par l'amour de ma grand-mère qui m'a alors vraiment mis dans une alcôve vraiment de coton. Hein. Mais ma mère, ces 3 années qu'elle a partagées avec mon père, à son âge, comme ça, si jeune, ça a été un cauchemar absolu. C'est pour ça qu'elle a fait ce choix de ne plus jamais en parler. Et alors, je me permets une anecdote, c'est que quand je lui ai expliqué que moi, j'allais écrire cette histoire, elle m'a dit, pas question, elle m'a dit, c'est un secret que j'ai gardé pendant 50 ans et tu vas le mettre sur la place publique. Alors, j'ai fait ce pari, je lui ai dit, écoute maman, j'écris le livre, tu le lis, tu me dis oui, tu me dis non. Et j'ai pris ce risque d'écrire un livre, peut-être bon pour la broyeuse, parce que si elle me disait non, j'aurais jamais pris le risque de me bagarrer avec ma mère ni rien. Coup de chance, elle l'a lu, elle l'a apprécié, elle a surtout trouvé que j'avais bien réussi à m'identifier à elle et à ma grand-mère, et à bien restituer l'ambiance de l'époque, dans cette ambiance 60s, ce pur cauchemar qui est jailli comme ça. Elle a dit, écoute, c'est exactement ce qu'on a vécu, vas-y, parce qu'en plus c'est un livre... C'est elle qui parle, hein, qui se dévore. Je pense que ça va intéresser les lecteurs.
Est-ce que ça l'a soulagée, elle, qu'on puisse finalement, que vous puissiez, vous, son fils, raconter cette histoire et mettre des mots sur des mots MAUX qui la portent et qui l'ont fait souffrir pendant des années, encore aujourd'hui. Elle a eu du mal à vous en parler il n'y a encore pas très longtemps.
Je pense que, si vous voulez, elle a quand même eu une joie, une sorte de plaisir. Ça fait des années maintenant qu'elle vit avec son fils écrivain, qui a du succès, donc ça amène une grande satisfaction pour elle. Et puis, elle voit cette histoire qui a été une grande, grande blessure pour elle, à rejoindre un peu, entre guillemets, mon firmament. C'est-à-dire que cette histoire qui a toujours été dans les basses fosses, dans les secrets, dans les tabous, pouf! On la pose sur le nuage du succès, sur Granger écrivain. Et ça, je pense que ça lui fait plaisir. Et puis, si ce livre a la chance de marcher, lui aussi, je pense qu'elle sera contente de voir que, même ça, j'ai réussi à en faire quelque chose, un sujet, pas de gloire, disons, mais enfin, en tout cas, de fierté, quoi.
Ouais. Et pour vous, Jean-Christophe Granger, vous dites que votre inconscient est tenté, mais vous soulignez votre instinct de survie enfantin. Fils de l'épouvante, dites-vous, vous ne pouviez pas vous laisser crever ou submerger par cette panique. Vous avez donc transformé cette angoisse avec ce plaisir esthétique et puis c'est ce besoin d'esthétisme. Est-ce que ce livre vous fait du bien vous-même? On parlait des cauchemars là, vous essayez de vous alléger d'un certain nombre de choses.
Alors non, pour la bonne raison que quand j'ai fait cette fameuse dépression, j'ai attaqué une psychanalyse qui a duré au moins 8 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai lavé mon linge sale. Alors, j'étais pas au courant de tout, mais si vous voulez, toutes les résonances, tous les échos que pouvait avoir cette histoire à cette poche noire, là, j'ai vidé mon sac, hein, c'est fait pour la psychanalyse. Je recommande à tout le monde d'en faire. Il n'y a rien de mieux que passer comme ça à la machine à laver. Et c'est là que je me suis allégé, si vous voulez. C'est pour ça que je pense que j'ai été prêt, alors plusieurs années plus tard, presque 15 ans plus tard, à raconter mon histoire à la bonne distance en étant... Quand j'ai écrit ce livre, honnêtement, je l'ai écrit sans douleur et avec plaisir. Je l'ai écrit comme une bonne histoire. Et quand je l'ai eu fini, je me suis dit, je pense toujours à mes lecteurs, quand j'ai fini un livre, je vais dire, vous allez vous prendre ça dans la poire.
Vous soulignez l'importance de la parole, quand même.
D'ailleurs, à travers cette psychanalyse,
hein, vous dites que bien vous sûr. Êtes livré, que vous êtes vraiment mis.
Bien mis sûr, sur bien le, sûr. Sur c'est le... une. On expurge, si vous voulez. Je le raconte quand je sors de mon psychanalyse et que je monte sur mon petit scooter. Je suis soulagé. J'ai presque des vertiges d'ivresse parce que je me suis libéré de certaines choses. Je fais une grande différence entre les choses que vous savez, mais que vous gardez pour vous, et les choses que vous savez, mais que vous dites, et pas à vos amis, parce que à ce moment-là, l'attention est biaisée, mais un psychanalyste, c'est-à-dire une oreille neutre, qui est un peu, entre guillemets, il serait pas content s'il m'entendait, mais un vide ordure, quoi. C'est-à-dire, vous jetez des choses par la parole, et il y a un truc organique qui est que ça passe par la voix, ça passe par le physique. Je veux pas dire que c'est comme le vomi, mais si, il y a quelque chose comme ça. Excusez-moi, hein, là, on déraille.
Donc l'angoisse fait définitivement partie de vous?
Oui, je le raconte, c'est un souvenir d'enfance qui m'a beaucoup marqué et qui a été long, c'est que chaque année, je voulais toujours aller voir les trains fantômes à la Foire du Trône. Et les devantures, vous savez, ces grosses devantures mal peintes, là, et puis les gros rires dans les enceintes sataniques, ça me suffisait pour pas dormir des semaines entières, mais en même temps, j'étais attiré. J'étais en chemin pour cette sublimation, c'est-à-dire transformer ces choses qui me terrorisaient en objet de plaisir, en objet esthétique, et après, j'ai été fanatique des films d'épouvante.
Comme L'Exorciste, hein, d'ailleurs.
L'Exorciste, c'est mon film fétiche. Et en même temps, je redoutais de voir ce film. Donc, il y a eu toujours ce double rapport qui est celui de mes livres. Hein. Je veux dire, moi, je dis toujours, je raconte des histoires, des contes pour adultes, parce que tout le monde me dit, oh là là, qu'est-ce que ça fait peur, vos livres. Mais en même temps, tout le monde les lit et avec plaisir. Donc, vous voyez, c'est toujours cette démarche de transformer la peur en plaisir.
Quand on regarde bien, et vous le soulignez d'ailleurs, depuis vos débuts, depuis Le Vol des Cigognes, vous avez toujours traité les tueurs avec cette image du père. Même dans Les Rivières Pourpres, on trouve des pères de substitution hein, qui, justement, tentent d'échanger des enfants, des nouveau-nés, des bébés à la maternité en vue de créer une race supérieure. En 30 ans, vous avez toujours raconté des histoires histoire glauque, mais de géniteur maléfique.
Oui, un jour, un éditeur m'a dit comme ça, les grands écrivains, excusez-moi, c'est, je cite, toujours, ils racontent la même histoire, toujours la même histoire. Et c'est vrai que tout de même, derrière les histoires que je raconte qui sont différentes, il y a quand même le même flot, la même vague, qui est toujours la même, qui est une histoire des origines, une histoire à forte charge génétique. Donc c'est quand même ce linge sale-là que je lave dans mes livres. Et consciemment, je me dis toujours, ah bah ça, c'est intéressant. Un père, c'est intéressant. Mais pourquoi je me dis ça? Bah parce que c'est justement mon problème personnel. Vous savez, j'aurais eu un autre problème dans ma vie, des problèmes d'amour. Bon, bah, je raconterai toujours des thrillers sur fond amoureux ou je ne sais quoi. Moi, mon problème, c'est quand même l'histoire du père. Et en voulant répondre à cette question, d'où te viennent tes idées? Pareil, la première remarque que je me suis fait, c'est quand même qu'en effet, je racontais un peu toujours la même histoire. Toujours une histoire qui revient aux origines. Et je trouve oui, c'est très intéressant, c'est ces premières années d'enfance. Et puis moi, ce qui m'a intéressé dans mon livre, c'est quand même de raconter ce qui s'est passé quand j'avais 6 mois, 1 an, 2 ans, donc des choses dont je me souviens absolument pas et dont je me souviens en fait.
La preuve, c'est mes bouquins. C'est-à-dire qu'en fait, vos cauchemars de personnes qui se penchaient sur votre berceau,
exactement,
en fait, elles ont vraiment
exactement
existé et c'est ce que vous racontez.
Et donc, si vous voulez, on voit bien que, et c'est ce qui est quand même intéressant dans l'écriture, vous créez une histoire de fiction, vous vous donnez beaucoup de mal pour bien l'écrire, pour faire du style, c'est de la belle œuvre, c'est de la artisanat, et bien derrière, il y a quand même cette lame de fond qui est votre inconscient et des souvenirs dont vous n'avez même pas conscience, vous. Et ça, je trouve ça super intéressant. Moi, je vais même jusqu'à dire qu'on a peut-être des souvenirs de la vie intra-utérine. Vous voyez, j'étais peut-être au mariage quand ma mère dansait le rock avec son petit frère et qu'elle était déjà très angoissée à l'idée d'épouser cet homme. J'étais là, j'avais 3-4 mois de vie intra-utérine et peut-être que déjà ça m'a marqué. Je trouve ça très très intéressant ce qui peut vous marquer quand vous êtes bébé et même fœtus.
Là, vous terminez ce livre en vous adressant à votre mère et votre grand-mère, vous leur dites « je m'en suis sorti grâce à vous ». Ce livre est donc votre solde de tout compte, Jean-Christophe Granger ?
Absolument, absolument, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une fêlure, j'ai eu une histoire dramatique, un peu à mon insu, mais quand même ça m'a marqué en profondeur, et en même temps j'ai pu me constituer en enfant équilibré, qui a su s'exprimer, travailler à des créations artistiques, et ça c'est vraiment grâce à l'amour. Et c'est un thème aussi qui revient beaucoup dans mes livres, c'est-à-dire que j'explique toujours dans mes livres pourquoi le méchant est méchant. On trouve l'identité du tueur, mais on raconte aussi son histoire, et son histoire est toujours atroce. Il y a un point commun à tous les tueurs en série, c'est quand même qu'ils ont eu une enfance malheureuse. Tous les enfants malheureux ne deviennent pas des tueurs en série, mais tous les tueurs en série ont été des enfants malheureux. Ça, c'est une constante. Si vous n'avez pas l'amour qu'il faut pendant que vous êtes enfant, vous pouvez vraiment déraper et devenir très méchant. C'est une idée très optimiste et assez catholique, en fait, parce qu'en plus, je suis catholique, pour couronner le tout. Mais si vous voulez, c'est quand même cette idée que, au fond, le mal n'existe pas. Le mal, c'est un dérapage. C'est quelque chose qui ne marche pas dans la machine. Et ce dérapage, il vient de quoi? Il vient d'une frustration, d'un manque d'amour. Et moi, j'ai toujours la grande conviction que si vous donnez tout l'amour qu'il faut à vos enfants, normalement, ils suivront le bon chemin. Ça semble naïf de dire des trucs comme ça, mais je crois que c'est un ouvrage, alors là pour le coup c'est mieux que les bouquins. Tous les matins, tous les soirs, vous travaillez à cet ouvrage de donner l'amour suffisant à vos enfants. Et moi j'en ai 4, je sens bien qu'ils sont nourris grâce à ça et que grâce à ça, pour l'instant, ils ont un cheminement équilibré et fertile. Vous voyez, ils font des choses, oui, ils sont équilibrés, ils peuvent faire face à la vie. Et ça, moi, alors, la clé de tout, c'est l'amour. Alors, comme je dis, à un moment donné, j'ai failli appeler le livre « Le triomphe de l'amour », mais c'était moins vendeur que « Je suis né du diable ». Quand même, « Je suis né du diable », ça accroche.
Pour terminer, heureusement que vous avez eu une enfance heureuse, Jean-Christophe Granger, parce que vous auriez fini tueur en série.
Absolument, non mais encore une fois, la sublimation, vous arrivez à transformer des peurs, des traumatismes en quelque chose de positif. Donc ça, c'est tout de même lié à l'amour que j'ai eu, qui m'a entouré. C'est aussi pour ça, c'est un peu un symbole que je parle tant des forteresses de briques, là, des portes de Paris. Tout le monde connaissait, enfin les Parisiens connaissent ces forteresses. Et c'est une métaphore de cette forteresse qu'ont construit ma mère et ma grand-mère autour de moi et qui a fait que j'ai été un petit enfant finalement fort, bien que habité par la peur, fort tout de même, équilibré.
Merci beaucoup Jean-Christophe Granger d'être
merci
passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Je suis né du diable, vient de sortir aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci.